Ok, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse chapitre 38. On va lire tout le chapitre. Pourquoi j'ai décidé de tout le prendre? C'est un gros morceau pour essayer de prêcher. 30 versets, c'est énorme. Mais il reste que c'est une histoire qui se tient ensemble. Alors, on va la faire soit en une fois ou soit en deux fois. Je ne sais pas comment ça va aller. On va voir. En tout cas, on va faire Tenez vous levez, on va lire ensemble. Le chapitre 38 du livre de la Genèse. Genèse 38, versets 1 à 30. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xig quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas laisser de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve, dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheba, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi, dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adullamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'il ne lui était point donné pour femme. Juda la vit et il la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers toi? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Elle les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par son ami, l'Adullamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu de prostituée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvée. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Vous asseoir. Alors, c'est intéressant ce chapitre-là. Il y aurait beaucoup de choses à... On pourrait faire plusieurs sermons avec ce passage-là. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que si on regarde le livre de la Genèse depuis le début, une des choses qui est le fil conducteur des Écritures, de toutes les Écritures d'ailleurs, mais du livre de la Genèse en particulier, c'est la venue future de Christ. Alors, on a vu la création, on a vu au chapitre 3 la chute d'Adam et d'Ève, et ensuite on a vu que Dieu avait appelé Abraham, après ça il a vu son fils Jacob, et là on est rendu, on a vu beaucoup de chapitres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un chapitre où on a commencé l'histoire de Joseph, et brusquement, on coupe l'histoire de Joseph pour introduire le chapitre 38 qui parle des trois fils de Judas, et de toute cette histoire-là de prostituées. C'est intéressant, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir lu Matthieu 1. Quand on regarde Matthieu 1, au début, dans la généalogie de Jésus, on parle de quatre femmes. Tamar, après ça, il y avait Ruth, il y avait Bathsheba, et il y avait l'autre là, qui est... En tout cas, je ne me souviens plus son nom. C'est intéressant de voir que dans le chapitre de la généalogie de Jésus, l'histoire qu'on est en train de lire, Tamar est présente et elle fait partie de la descendance de Jésus-Christ. Une des cinq femmes, il y a cinq femmes dans le chapitre 1 de Matthieu, il y a cinq femmes. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'il y a plusieurs leçons qui nous ont apprises là-dedans. Si tu regardes ces quatre femmes-là, tu regardes leur nationalité, c'était des étrangères. Ce n'étaient pas des gens du peuple juif. Autre chose, il y en a deux sur ces quatre-là qui étaient des prostituées. Alors, comment le Seigneur vient sauver des gens qui ne sont pas nécessairement respectables dans sa lignée? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que le Seigneur est gracieux et c'est par grâce que le salut arrive. Et parce que normalement, à cause des exigences de la loi, ces quatre femmes-là, même le père Judas, il aurait dû être lapidé. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui tombait de l'adultère, c'était la lapidation. Alors, si tu regardes l'ensemble de ces choses-là, ces personnages-là n'auraient pas dû être dans la lignée de Jésus, parce que selon la loi, ces personnages-là étaient soit défendus d'entrer avec les Juifs, ou il y avait toujours des empêchements. La loi aurait été très sévère. Et on voit la grâce de Dieu qui se manifeste à travers de ça. C'est intéressant de voir qu'un personnage qu'on étudie dans le chapitre 38 de la Genèse, on va la revoir dans la généalogie de Jésus dans le chapitre 1 de Matthieu. Très intéressant. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le Seigneur commence le chapitre 38? Il introduit le chapitre 38 après qu'a commencé l'histoire de Joseph. On se rapportait à dire, ben il va continuer toute l'histoire de Joseph. Mais après le chapitre 38, c'est ça qui va arriver. Là, le Seigneur va continuer l'histoire de... Mais il faut se poser la question, pourquoi l'Esprit-Saint introduit le chapitre 38 après que le Seigneur a commencé à développer l'histoire de Joseph? Alors, on peut se poser la question. Pourquoi? Que le Seigneur, l'Esprit-Saint, a mis cela. Il y a plusieurs raisons que les commentateurs disent. Ils disent, premièrement, ça va contribuer à entretenir le suspense de ce qui va arriver à Joseph. C'est un peu comme si l'histoire de Joseph était mise en parenthèse, et on met cette histoire-là, et après on va continuer. Deuxième raison, c'est que les actes ignobles de Judas et de ses enfants mettent en lumière l'authenticité et l'intégrité morale de Joseph. Autrement dit, si tu veux montrer quelque chose de blanc, parce que c'était vraiment le caractère de Joseph, mais tu mets du noir et ça fait le... Et vraiment, là-dedans, Judas a mal agi. Son premier fils, Dieu dit qu'il a fait mourir Er parce qu'il était méchant. Le deuxième, il le fait mourir également. Et quelque part, on apprend plein de choses là-dedans. La troisième, c'est que le récit insiste sur Tamar et ses rapports avec la postérité. C'est-à-dire la compréhension et son évaluation de son désir de voir s'accomplir les promesses faites à Abraham. Elle devient d'ailleurs l'ancêtre de Jésus, le Messie. C'est très intéressant de voir que ça aurait dû être le premier-né de Judas qui aurait été dans la lignée messianique. Et ce n'est pas lui. Dieu a dit, il était méchant, il a enlevé la vie. Le deuxième, il a enlevé la vie également. C'est intéressant de voir que Tamar, elle, pour elle, la promesse que Dieu avait faite d'envoyer le Messie et qu'elle fasse partie de cette lignée-là, pour elle, c'était important au point de se déguiser en prostituée pour que la promesse s'accomplisse. Alors, on voit que pour Judas, c'était moins important que pour une prostituée. Quand même, il y a des choses intéressantes là-dedans. Alors, l'histoire de Judas et de Tamar va résumer des termes qui reviennent régulièrement dans les patriarches d'Israël. Les patriarches, on a Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, les premiers. Premièrement, on a le thème du trompeur trompé. Elle se fait passer pour une prostituée, puis lui, il ne la reconnaît pas, il couche avec, mais elle a deux enfants. On va voir qu'un de ces deux enfants-là va devenir dans la lignée messianique. C'est intéressant. La préférence aussi accordée au plus jeune par rapport à l'aîné. Normalement, c'est toujours le plus vieux qui aurait dû être dans la lignée messianique. Et on va voir encore une autre fois, avec Jacob et Ésaü, qu'est-ce qui s'était passé? C'était l'aîné n'a pas eu la bénédiction parce qu'il a été, il a perdu sa bénédiction. Et on voit encore une fois ici la question de ce thème-là, de la préférence du plus jeune sur l'aîné. Alors que normalement, dans les Écritures, ça aurait dû être l'aîné qui aurait dû être dans la transmission pour être dans la lignée messianique. On voit aussi que là-dedans, les coupables qui sont contraints de reconnaître leur péché et l'instrumentalité des épreuves pour effectuer les changements de vie. On va regarder ça en détail tantôt. Et pour nous montrer la main souveraine de Dieu dominant le déroulement de la venue future du Messie. Il y a des choses tellement intéressantes dans ce passage-là, moi je trouve. On va regarder la première idée, c'est que la lignée messianique est menacée par le péché de Judas, dans les versets 1 et 2. Il arriva, quand ce temps-là, quand il parle de ce temps-là, il parle du temps de Joseph. Quand ce temps-là, Joseph, on sait que Judas était avec les frères qui ont vendu Joseph. Il arriva, quand ce temps-là, Judas descendit avec ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Et Judas, il vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, il la prit et vint vers elle. Voyez-vous le péché de... C'est quoi? Le péché, c'est tout simplement qu'il marie une Cananéenne. Premièrement, il quitte sa famille qui était bénie dans la terre que Dieu leur avait donnée. Il quitte ça pour s'en aller avec les Cananéens. Et en plus, non seulement il rencontre une Cananéenne, il la marie. Fait qu'il y avait un péché grave qui s'introduisait dans sa vie. Péché de désobéissance. Donc, la première chose qu'il fait comme péché, c'est se séparer de la communauté de croyants. Judas décide de s'éloigner de ses frères. Une des raisons pour lesquelles on pense qu'il voulait s'éloigner de ses frères, ça peut être parce qu'il cherchait à apaiser sa conscience en prenant ses distances avec ses frères. Il voyait probablement le père qui était inconsolable après des années, ça a duré longtemps, là. des années. Puis lui, quand tu as fait quelque chose de mal, puis c'est toi qui es la cause qui file comme ça, là. Et lui, il doit venir un temps, tu dois filer mal dans ta peau. Hein. Alors il quitte sa famille pour s'en aller chez les Cananéens et il marie une Cananéenne. Alors, il voyait son père se lamenter sur la disparition de Joseph et probablement que sa souffrance était rendue grande au point que moi, je m'en vais. Je m'en vais, je ne suis plus capable. Fait que là, il voit son père et il s'en va dans un pays, il quitte la communauté de croyants, très grave. Pour n'importe quel chrétien, quitter la communauté de croyants, nous, on est une communauté. Quand on quitte la communauté, on n'est pas béni. Ça nous amène au péché plus facilement. Et autre chose, il se lie d'amitié avec un Cananéen qui s'appelle Ira, dans le texte. Et bien entendu, quand tu te lies d'amitié avec un païen, qu'est-ce qui arrive? On est influencé par le païen et on finit par adopter les comportements de païens. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit par rapport aux mauvaises compagnies? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. « Ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et autre chose qu'on apprend un petit peu plus tard sur Ira, il est devenu l'entremetteur du mariage de Judas d'abord, parce que Judas s'est marié avec une Cananéenne. Alors, Ira est devenu l'entremetteur. C'est lui qui a permis qu'il rencontre cette femme-là. Et ensuite, il a participé aux débauches de Judas. On le voit dans le chapitre 38, au verset 12 et au verset 20. Quand on lit rapidement là, le chapitre 38, c'est des choses qui nous échappent des fois. Pourtant, ça dit dans le verset 12, « Et les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta vers l'étendard de ses brebis à Timna, avec Ira, son ami, la Dulamite. » Autrement dit, il a commencé à... Ira est devenu un compagnon. Et dans le verset 20, ça dit, « Et Judas envoya le chevreau, il avait promis un chevreau à la prostituée, envoya le chevreau par son ami, la Dulamite. » Voyez-vous, l'amitié là, a créé qu'à fin de compte, il dit par son ami, pour retirer le gage des mains de cette femme, mais il ne la trouva point. Autrement dit, le fait de s'être mis ami avec un Cananéen, un païen, ça l'a amené le païen à être témoin de choses que normalement il n'aura pas dû voir chez un croyant. Fait que quand, ben oui, le témoignage, parce que quand il a dit va porter ce chevreau-là pour payer la prostituée, c'était pas un fort témoignage, ben fort, comme on dit. Non. Alors, ces versets-là nous parlent, nous avertissent du danger d'arrêter de fréquenter le lieu où on entend la parole de Dieu et où on rencontre son peuple. Et il nous apprend aussi qu'il faut se méfier des relations amicales ou intimes avec ceux qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Et ces leçons-là, là, on le voit avec Judas, mais ils continuent à s'appliquer de nos jours aussi. Si on ne fait pas attention avec qui qu'on se tient, en fin de compte, les païens nous influencent, comme ça dit dans 1 Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans le verset 2, là, non seulement ils quittent sa famille, mais il se marie avec une Cananéenne. Et tous ceux qui, regardez dans n'importe quel dictionnaire de théologie ou biblique, là, les Cananéens, c'était vraiment des peuples hyper pourris au point de vue de l'idolâtrie et de la prostitution sacrée, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça ne peut pas faire autrement qu'il a fini par être influencé de ça. Alors, il marie une femme Cananéenne. Pourtant, dans Genèse 34, versets 13 et 14, on lit une affaire par rapport à Jacob. Jacob, c'était le père de Judas. Et on ne peut pas dire que Judas se marie alors qu'il ne savait pas. Parce que dans le chapitre 34, ça dit, « Alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père. Ils parlèrent ainsi parce qu'il avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. » Un homme incirconcis, c'était quoi pour l'époque les Juifs? Un homme incirconcis, c'était un inconverti. Ils disent, « On ne peut pas donner notre sœur à un inconverti. Car ce serait pour nous un opprobre. Judas était au courant que marier une cananéenne, une païenne, c'était pas correct. Alors, on voit ici le péché de Judas. Alors, ces mauvaises décisions l'ont amené plus tard à la commission de d'autres péchés, deux autres péchés. La justice propre, autrement dit, la justice propre, c'est quand il était mis au courant face à sa belle-fille qui avait couché avec en pensant que c'était une prostituée. Il dit, elle est plus juste que moi. Il reconnaît pas sa propre faute, mais il reconnaît qu'elle, malgré sa faute très grave, était meilleure que lui. Et aussi, il a exigé, et l'injustice aussi, exigé que sa belle-fille, il ne savait pas que c'était sa belle-fille, mais lui, quand il a su qu'elle était enceinte, là, qu'elle soit brûlée. La sévérité, hein? C'est comme, ça nous dit une leçon par rapport à nous. On est très sévère avec les fautes des autres, mais on n'est pas très sévère avec nos propres fautes. Pourtant, il aurait dû se reconnaître, « Ouais, mais moi aussi, j'ai une faute très grave. » Parce qu'à l'époque, si tu couchais avec une femme, la parole disait, dans Lévitique, ça disait que non seulement c'était l'homme et la femme qui se devaient d'être lapidés. Mais lui, il est très rapide pour dire qu'elle soit brûlée. Mais lui, comme il a oublié qu'il avait fait une faute là-dedans, lui aussi. Regardez dans le chapitre, dans le verset 24. Or, il arriva qu'environ 3 mois après qu'on fit rapport à Judas en disant « Ta mère, ta belle-fille, s'est prostituée. » Et même la voilà enceinte par suite de sa prostitution. Et Judas dit « Faites-la mourir et qu'elle soit brûlée. » C'est lui qui avait couché avec, puis « Faites-la mourir et qu'elle soit brûlée. » Parce qu'il reconnaît dans le verset 25 et 26, quand il dit dans le verset 26, « Alors Judas l'est reconnu, parce qu'elle a envoyé le cachet, qu'est-ce qu'il avait donné en garantie de paiement. » Il lui reconnaît ça, et là, il reconnaît que c'était à lui, et il dit, « Elle est plus juste que moi. » Intéressant. Ouais. Il dit, « Parce que je ne l'ai point donné à Shéla, mon fils. » Il avait perdu 2 fils à cause. Le premier, c'est Dieu qui a décidé de lui enlever la vie. Le deuxième, elle est morte. Et le troisième, il restait encore Shéla. Normalement, Shéla aurait dû marier. Et là, il avait peur, probablement qu'il s'est dit en lui-même, « Hey, ça fait 2 fils que je perds à cause de cette affaire-là. Le troisième, je ne le donnerai pas. » Fait qu'il ne l'a pas donné, mais on a vu que ça a tourné très mal à son affaire. Dans le verset 3 à 11, on voit que la lignée messianique est aussi menacée par le péché des fils de Judas. Donc, le péché de Judas en premier, le péché des fils de Judas en deuxième, le péché de Er, qui est dans le verset 7. On va commencer à lire à partir du verset 3. Et elle conçut et enfanta un fils, elle le nomma Er. Donc, ça, c'est la première femme de Judas. Elle a nommé son premier fils Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle le nomma Onan. Donc, deuxième fils, Onan. Elle enfanta encore un fils et le nomma Shua. Donc, il y a eu 3 enfants à Judas. Et Judas était à Kézide quand il l'enfanta. Et Judas prit une femme pour Er, son premier-né, qui s'appelait Tamar. Donc, son premier fils, non seulement lui, il a marié une païenne, mais il a donné son fils à Tamar, qui était elle aussi une cananéenne, une païenne. Donc, quand tu commences à pratiquer un péché, tu le transmets bien souvent à ta descendance. Et gardez bien le verset 7. Mais Er, premier-né de Judas, normalement, ça aurait dû être Er qui aurait dû être dans celui qui deviendrait la lignée messianique. Mais Er, premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors, l'Éternel a le droit de faire ce qu'il veut avec sa création. Il l'a fait mourir parce qu'il jugeait qu'il n'était pas probablement digne d'être dans la lignée messianique. Alors, le premier-né de Judas se révèle être un être abject. Alors, jugé parce qu'il hésite son frère Onan et de ce qui lui arrive, il se peut que la perversité d'Er fût de nature sexuelle. Pourquoi on pense ça? C'est à cause de ce qui se passait dans l'environnement des Cananéens à cette époque-là. Alors, tout ça, ça résulte d'un châtiment divin. Dieu lui permet de récolter les fruits de sa vie immorale par une mort rapide, précoce et sans laisser de descendance. Là, il faut rester dans l'esprit qu'on est dans le chapitre, on est dans le livre de la Genèse où Dieu a promis l'envoi d'un futur Messie. Et le futur Messie, il aurait dû venir par air. Dieu dit non, ce ne sera pas lui. Le deuxième, intéressant aussi, péché d'Onan, versets 8 à 11. Alors Judas dit à Onan, lorsque c'est son deuxième, quand il a vu que le premier Dieu avait enlevé la vie, il dit, je vais lui donner à Tamar, mon deuxième fils. Alors Judas dit à Onan, viens vers la femme de ton frère et prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. C'était une loi de l'Ancien Testament, quand quelqu'un mourait, et que c'était le frère qu'il fallait... Aujourd'hui, je pense qu'il y aura bien du monde, il n'y aura pas de misère avec cette loi-là. Ouais. Va coucher avec la femme, va coucher avec ta belle-sœur, une qui ne se ferait pas prier. Mais à cette époque-là, c'était quand même quelque chose qu'il fallait, qui assurait la postérité de ton frère. Mais regardez bien le verset 9, hein, on voit encore la méchanceté du cœur humain. Mais Onan savait que cette postérité ne serait pas à lui. Et quand il venait vers la femme de son frère, il se souillait afin de ne point donner de postérité à son frère. Le mot onanisme, ça veut dire masturbation. Autrement dit, il pratiquait ce qu'on appelle le coït interrompu. Il faisait exprès pour ne pas envoyer sa semence dans le corps de la femme. Il faisait exprès. Puis il ne l'a pas fait avec une fois, là. Le texte, ceux qui connaissent l'hébreu, ils disent que le texte nous permet de voir qu'il le faisait à répétition. Autrement dit, pourquoi il le faisait à répétition? Parce qu'il ne voulait pas perdre l'héritage qui était rattaché à ça. Et verset 10, et de ce qu'il, c'est qu'il faisait, déplut à l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Donc les deux premiers fils étaient décédés. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, t'as le troisième. » Il dit, « Il est jeune un peu, Shéla, attends un peu, reste chez vous, puis maintenant, quand il va être assez vieux, on va te le donner. Car il disait, « Prenons garde qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. » Autrement dit, il y avait les kettles qu'à cause que Dieu avait enlevé la vie aux deux premiers, à ses deux premiers fils, qu'il l'enlève au troisième aussi. Fait qu'il dit, je ne donnerai pas celle-là. Et Tamar s'en alla et demeurait dans sa maison de son père. À peine mariée, la jeune Tamar se retrouve veuve et sans enfant. Judas demande donc à Onan, son deuxième fils, de l'épouser et de susciter une postérité à son frère défunt. Alors, on appelait ça la loi du Lévirat. La loi du Lévirat, c'est une pratique ancienne et très répandue à cette époque-là. Il était du devoir du fils qui venait immédiatement après le défunt. Autrement dit, si tu avais un frère puis que le premier mourait, tu avais le devoir de faire une descendance pour ton frère, en couchant avec. Le terme Lévirat vient du latin lévir qui signifie beau-frère. On considérait le premier-né de ces mariages comme le fils du mari décédé. Et il portait le nom et héritait de ses biens. Alors, on pense, les commentateurs pensent que la raison pour laquelle Onan faisait ses choses par terre, c'est qu'il voulait s'accaparer de l'héritage et non pas que le fils qui viendrait ait l'héritage. Alors, c'est un péché de convoitise. Alors, comme je vous l'ai parlé, il semble que le texte hébreu indique que non seulement il l'a pas fait juste une fois, que c'était une pratique. Il faisait exprès pour que la femme de son frère n'ait pas d'enfant de lui. Et ce que ça dit dans le verset 10, ça ne plaisait pas à l'Éternel. Parce que la loi, à cette époque-là, c'était comme ça. Et en manquant la loi, il se trouvait à pécher. Et l'Éternel lui enlève la vie à lui aussi. Donc, mettez-vous à la place de Judas. Vous avez vu deux de vos fils perdre la vie, un qui était méchant, l'autre parce qu'il ne faisait pas ce qu'il aurait dû faire, Dieu lui enlève la vie également. Et il était rendu au point où il aurait fallu qu'il donne son troisième fils, Shéla, à cette femme-là. Et là, il a dit non, moi, je ne le donne pas, parce qu'il avait peur. Ça dit dans le texte qu'il avait peur qu'il arrive le même sort qu'à ses deux frères. Alors, on va prendre la troisième idée, la lignée messianique qui est menacée par le péché de Tamar. Alors, et les jours s'écoulèrent, verset 12, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas se fut consolé, il monta vers l'étendeur de ses brebis. Autrement dit, Judas, il était marié avec une Cananéenne. La Cananéenne est morte. Et là, il est monté. Fausse rentrée à l'esprit, monter vers l'étendeur. À l'époque, l'étendeur, c'était comme une fête. Il montait, puis quand il enlevait la laine des moutons, c'était une fête pour s'amuser. Et il va vers l'étendeur à Timna. Avec qui? Dans le verset 12, avec son ami Ira. L'ami païen, l'adulamite. Et on le fit savoir à Tamar en disant, voici ton beau-père, monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle quitta ses habits de veuve, il se couvrit d'un voile, il s'en enveloppa et s'assit à l'entrée d'Enaïm qui est sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla était devenu grand, troisième fils de Judas, et qu'elle ne le lui avait point été donné pour femme. Donc, elle a compris le jeu de son beau-père. Elle a dit, le beau-père, il ne veut pas me donner le troisième fils. Du moins, je vais m'organiser pour en avoir un enfant de Judas lui-même. Elle s'est déguisée en prostituée. Mais elle, dans son esprit, fort probablement que c'était dans le but que la promesse divine d'envoyer le futur Messie s'accomplisse par elle. Alors, elle avait quand même, était quand même, même si elle était une prostituée, spirituelle. Et Judas la vit. Là, il était rendu, lui, que sa femme était morte.
Ouais.
Fait qu'il était dans un état que sa femme est morte, il n'avait plus de sexualité. Fait qu'elle a choisi un moment où ce que lui est dans la faiblesse par rapport à ce niveau-là. Et comment il se déguisait, là, puis qu'elle se couvre le visage, comment les prostituées s'habillaient pour que lui, il la voie, puis qu'il... Il considère tout de suite ça, c'est une prostituée.
Ouais.
On ne sait pas vraiment. Car elle avait couvert son visage. Autrement dit, normalement, il aurait dû la reconnaître. Il dit, elle sait. Et il se détourna vers elle sur le chemin. Il dit, ah non, je t'ai pris. Là, autrement dit, il a dit, c'est comme s'il avait dit, je peux te coucher avec toi.
Ouais.
Elle a dit, OK, je peux coucher avec moi, mais il faut que tu me donnes des preuves, que tu me donnes un avant-paiement, que tu me donnes des choses pour prouver que tu vas me payer.
Mm.
Puis elle, quand elle a eu couché avec, elle sacré son camp. Et elle répondit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Elle lui dit, je t'enverrai un chevreau. Elle répondit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et elle dit, quel est le gage que je te donnerai? Elle répondit, ton cachet, ton cordon, ton bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Et il vint vers elle, elle conçut de lui. Voyez-vous? Conçut de lui. Conçut de son beau-père. Ensuite, elle se leva et s'en alla, elle quitta son voile, se remit ses habits de veuve, et Judas envoya le troupeau. Autrement dit, il a essayé d'envoyer le paiement, puis personne du pays reconnaissait qu'il y avait déjà eu une prostituée là. Fait qu'il a dit, ben moi, en même temps, je suis concerné, il voulait la payer, elle n'est pas là. Il a pensé que ça finirait comme ça. Alors, on voit le péché d'impatience et de tromperie de Tamar. Tamar avait compris que Judas n'avait pas l'intention de lui donner Shéla, le troisième fils, en mariage. Elle conçoit alors un plan qui lui permet de tomber enceinte de son beau-père. Bizarre pareil, hein, parce que les deux enfants qu'elle a eus sont devenus dans la lignée messianique. Elle ôte ses habits de veuve et s'enveloppe pour avoir l'air d'une prostituée tout en se voilant le visage pour dissimuler son identité. Puis après ça, elle s'assit là, puis... Alors, bien entendu, elle profite de la faiblesse de son beau-père sur le plan sexuel, maintenant qu'il n'y a plus de femme. Et elle a un plan, une manigance pour tromper son beau-père. Autrement dit, ça ne l'aurait pas mis de voile, ça n'aurait pas fonctionné. Lui, il l'a pris vraiment pour une prostituée. Ici, on assiste à un autre péché. Verset 15 à 19. Le péché de quoi? D'inceste et de prostitution. Elle s'est considérée elle-même comme une prostituée pour avoir un enfant de son beau-père. Mais elle savait que par ce moyen-là se réaliserait la lignée messianique. Et il y a vraiment aussi un péché d'hypocrisie là-dedans, parce que tu t'assis sur le bord du chemin, elle se faisait passer pour qui elle n'était pas. Alors, quand tu regardes les péchés, tu as le péché de Judas, tu as le péché des deux fils, tu as le péché de Tamar, ça fait beaucoup de péchés. Hein? Et c'est avec ces péchés-là que le Seigneur va utiliser, qu'il va arriver deux autres fils. Et quand elle va accoucher, là, elle n'aura pas rien qu'un, elle va en avoir deux. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait de la question de la primogéniture. Normalement, le premier qui est sorti, il a sorti une main. Il a mis un fil rouge. Mais là, l'autre t'a plus fort. L'autre, normalement, ça aurait dû être lui le premier, là. Et l'autre t'a plus fort, il a sorti. Apparemment que ça arrive, ça, souvent, dans des jumeaux, dans les... dans le sein de femme, que quand il est le moment de sortir, qu'il y a des chicanes entre les deux qui sortent le premier. On voit que ça commence de bonheur, le péché. Ça commence de bonheur, c'est moi qui sors, pas toi, non, c'est moi. Que là, c'était un petit peu ça qui est arrivé. Alors, quand on regarde les versets 24 à 30, c'est vraiment les descendants de Judas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant ici par la question du fil écarlate. Mm-hmm. Le fil écarlate, c'est pas la première fois que la Bible utilise cette image-là. Qui? Quel autre qui a eu ça? Josué avec la prostituée. L'autre qui est... je me souviens plus de son nom. Elle aussi, il avait dit, à cause que tu nous as cachés, les espions, Massa après ton chose rouge, ruban rouge... Mais je pense qu'il faut vraiment faire le lien avec le côté du salut. Mm-hmm. Autrement dit, le premier qui est sorti, c'est comme s'il représentait le peuple juif. C'est lui qui est sorti de premier, mais c'est le plus jeune qui a hérité de l'honneur d'être dans l'ennemi messianique, Pharès. Le premier qui est sorti, c'est Zara. Le deuxième, c'est Pharès, mais c'est Pharès qui a connu l'honneur. Moi, je voyais vraiment le symbolisme du peuple juif à qui on a annoncé le salut en premier, mais c'est comme, c'est pas eux autres qui ont sorti en premier. Le peuple qui a correspondu à honorer le salut que le Seigneur faisait, c'était vraiment le deuxième. Alors, c'était un honneur pour quelqu'un de cette époque-là d'être dans la lignée messianique, la question de la primogéniture. Quand elle arrive le moment d'accoucher, elle met au monde des jumeaux. Et ça ressemble à la naissance de Jacob et d'Ésaü, les deux bébés qui se livrent bataille pour sortir en premier du sein maternel. Voyez-vous, ça dit, au moment où l'un sort la main, la sage-femme lui attache un fil cramoisi au poignet pour le désigner comme le premier-né. Donc, normalement, ça aurait dû être celui qui a sorti la main en premier qui aurait dû être le premier-né. Mais vu qu'il n'a pas sorti complètement, c'est le plus jeune qui a sorti. Moi, je vois vraiment le symbolisme de Israël et l'Église dans ça. Alors, le second bébé, il sort de manière inattendue, si bien que la sage-femme déclare « Quelle brèche tu as fait! » La brèche, toi, sur toi, et on le nomma Pharès. Puis, si vous allez dans Matthieu 1, vous allez voir que Pharès est dans la lignée messianique. Donc, le Seigneur s'est sorti du plus jeune par rapport au premier. Il n'a pas sorti, c'est pas l'autre, c'est pas Zara qui a hérité de la primogéniture de la lignée messianique, mais c'est vraiment le deuxième. Alors, ensuite, se présente le bébé avec le fil cramoisi autour du poignet et on l'appelle Zarak. Alors, Judas a perdu combien d'enfants?
Deux.
Et elle, elle accouche de combien d'enfants?
Deux.
Deux perdus, deux de retrouvés. Alors, Dieu est absent dans ce récit, mais il est cependant à l'œuvre pour réaliser ses promesses à travers cette histoire sordide qui peut utiliser les êtres humains, les êtres les plus invraisemblables pour accomplir ses desseins. Alors, telle est la postérité de Judas. Les Juifs n'ont pas vraiment de quoi être fiers de leurs origines. Quand tu regardes toute cette histoire-là. Mmh. Mais pourtant, dans Jean 4, 22, ça dit, « Pourtant, le salut vient des Juifs. » Faretz, ou Peretz, dépendamment des versions, est un des ancêtres du roi David. Alors, Tamar tient compagnie à Rahab, la prostituée. Alors, le nom que je cherche, c'est la sœur Rahab. Les quatre femmes qui sont dans Matthieu 1. Il y en a cinq femmes. Dans Matthieu 1, là, il y a cinq femmes. Il y en a cinq. Il y a Marie aussi. Mais Marie, c'était une juive. Là. Mais il y en avait quatre, c'était des non-juifs. Tu avais Tamar, tu avais Rahab, tu avais Ruth, qui était une Moabite, et tu avais Bathsheba, qui était aussi une... Alors, c'était très... Quand on étudie ce chapitre-là pour la première fois, là, Matthieu 1-1, quand on lit ça, tout ce qu'on voit, c'est une énumération de noms. Mais il y a tellement de principes intéressants là-dedans. Il y a tellement d'enseignements bibliques à travers toutes ces choses-là. En passant, j'ai trouvé sur ça pourquoi il y a cinq femmes dans le début de Matthieu 1. J'ai trouvé un document sur Internet. Je l'ai lu ce matin. 12 ou 14 pages, un bijou pour expliquer tout ça. Vraiment, si jamais ça vous intéresse, vous me le direz. Probablement que samedi, ceux qui viennent au cours du samedi, je vous le donnerai. Et ceux qui veulent l'avoir par Internet, je peux vous l'envoyer. Je vous le dis, c'est très intéressant, parce que quand vous allez relire, après avoir lu un document comme ça, et vous allez relire Matthieu 1, vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Jamais, jamais. OK. Alors, la fameuse cordelette rouge. Alors, ce récit énonce un principe biblique. Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens, versets 28 à 31. Trois applications que je fais du texte d'aujourd'hui. Bien sûr, je pense que essayer d'expliquer 30 versets en un sermon, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce texte-là. Mais ça ne fait rien. En tout cas, on a passé par-dessus et on va, la semaine prochaine, on va continuer avec l'histoire de Joseph, que moi, je trouve littéralement passionnante. C'est une histoire passionnante, l'histoire de Joseph. Alors, les trois applications que je fais à partir du texte qu'on a étudié très brièvement aujourd'hui. La première, je dirais que rien ne peut s'opposer à la décision divine d'envoyer le futur Messie. On dirait bien que tout s'en mêlait. Air et qui perd méchant à Dieu décide de le... L'autre, honnête, est aspiré de faire son travail de Lévira. Il ne le fait pas. Ça déplaît à Dieu. Dieu lui enlève la vie. Et normalement, ça aurait dû être chez là. Et on voit toute la question, comment Dieu travaille. Il passe par-dessus les péchés des hommes. Il les utilise même pour arriver à ses fins. Alors, tout ce principe-là, toutes les forces... Parce que si on lit l'Ancien Testament avec attention, on se rend compte que le malin et bien d'autres forces ont cherché à s'opposer à l'arrivée future du Messie. Si on pourrait faire une étude approfondie de ça, on aurait pour des semaines et des mois. Ben. Mais Dieu avait dit qu'il enverrait son Messie et toutes les forces de l'univers se seraient conjuguées ensemble pour essayer de l'empêcher. Il n'aurait jamais réussi. Alors le malin et toutes les forces de la création de l'Ancien Testament, et même au Nouveau, parce que Jésus, quand il est venu au monde, on a essayé de l'éliminer, on a essayé de tuer les enfants dans bas de 2 ans, les forces qui essayaient d'empêcher l'arrivée du Messie étaient énormes. Mais ce qui est beau, c'est de regarder les Écritures, c'est quand Dieu fait une promesse. Tout le monde, ça va arriver. Deuxième application. Apprenons que les péchés secrets sont parfois exposés au grand jour de façon surprenante et mystérieuse. Lui, il pensait qu'il couchait avec elle, puis qu'il n'y avait pas de témoin, puis qu'il... Il pensait que son péché serait jamais découvert. Non seulement Dieu permet que son péché soit découvert, mais Dieu permet que par son péché, la lignée messianique s'accomplisse. C'est quelque chose d'extraordinaire là-dedans quand on s'arrête à y réfléchir. Apprenons également que l'Éternel punit parfois le péché d'un pécheur par la mort prématurée. Il faut, le Seigneur, considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Troisième application, rappelons-nous que nous ne devons jamais chercher les bénédictions spirituelles par les mauvais moyens ou les mauvais chemins. Par exemple, le péché de Tamar. Pas à cause qu'elle croyait que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'elle ne voyait qu'elle ne s'accomplissait pas par les moyens qu'il aurait dû, qu'elle a décidé, un peu comme Isaü dans le temps, avait décidé que lui, il prendra ça en main. Alors, si jamais, on n'est jamais béni d'utiliser des mauvais moyens. C'est par grâce que le péché de Judas et de Tamar ne reçurent pas de punition divine. Normalement, les deux, à cause qu'il avait couché avec une prostituée, elle, à cause qu'elle s'était déguisée en prostituée, puis qu'elle avait fait l'inceste avec son beau-père, normalement, la lignée messianique aurait dû être coupée à cause de la sévérité de la loi. Pourquoi elle n'a pas été coupée? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voyez-vous, dans Lévitique 20, verset 10, on termine avec ce verset-là, ça disait, « Si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Alors, lui était bien prêt à juger en disant, « Oh, qu'elle soit brûlée, mais lui, c'est comme s'il n'avait rien fait. » Alors, que l'Éternel soit béni, loué et exalté pour sa sagesse infinie.